aux finances. En tous les cas, merci infiniment je tiens à remercier ici publiquement le département pour les subventions et la hauteur de subventions que nous avons obtenues jusqu'à présent. Et en étant un peu gentil, j'espère, et poli, j'espère que nous pourrons continuer à en obtenir, parce que c'est important. Alors, nous allons donc aborder le rapport d'orientation budgétaire. Donc, comme je le disais, nous n'allons pas revenir sur le contexte budgétaire qui a été évoqué à de nombreuses reprises tous ensemble, que ce soit la crise énergétique ou encore inflationniste, qui explique les alertes lancées par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, association apolitique sur la situation auprès de nos représentants nationaux. Je rajouterai également qu'avec la gestion actuelle des finances publiques au niveau national, nous ne pouvons que craindre que la situation ne cesse de se détériorer pour les collectivités territoriales avec de nouvelles baisses de dotations globales de fonctionnement. L'État n'a jamais été aussi endetté et nous savons comment dans ce type de situation le rééquilibrage se fait. Il a fallu beaucoup de courage pour les élus qui ont procédé à une augmentation de fiscalité pour préserver les investissements, le quotidien et préparer l'avenir. Comme toujours, les élus locaux sont en première ligne et nous, nous l'avons fait et l'assumons. Aujourd'hui, nous allons de l'avant et je suis fière de vous présenter avec mon équipe un budget équilibré, solide et axé sur les attentes premières des Rambolitains et l'avenir. Un budget humain, travailler de manière très minutieuse avec les services de la ville, ne nécessitant pas de nouvelle augmentation du taux d'imposition municipale cette année. Un budget éco-responsable, tourné vers le quotidien de chacun des Rambolitains avec près de 4 millions d'euros investis dans notre éclairage public pour répondre aux attentes de qualité d'éclairage souhaitées par les Rambolitains et poursuivre notre transition écologique. 4,8 millions pour les travaux du quotidien, dont 1,4 million de travaux spécifiques au niveau du carrefour Tivoli en centre-ville, ça ne nous aura pas échappé, ça se voit, 400 000 euros pour les circulations douces et 3 millions pour la réhabilitation des voiries. Sans oublier les travaux dans nos écoles pour, entre autres, améliorer les performances énergétiques de nos bâtiments et le confort pour leurs usagers. Le plan école, 1,7 million, ou encore l'achèvement du CLA Éclairbois, un peu plus de 5,7 millions cette année, sur un total de 10 millions. Un budget humain qui sait prendre en compte les besoins de tous, les besoins culturels, avec 1 million de subventions d'investissement pour soutenir le projet cinéma en centre-ville, ou encore pour 200 000 euros, les besoins de nos enfants avec l'entretien et la rénovation d'aires de jeu. Parce que ce budget est avant tout celui des Rambolitains, pour les Rambolitains, il prévoit aussi 300 000 euros pour les budgets participatifs, qui sont l'une des vitrines de la participation citoyenne et une manière pour la municipalité de rappeler l'importance de donner la parole aux Rambolitains. Un budget solidaire qui accompagne notre tissu associatif en prévoyant plus de 577 000 euros pour les associations, plus de 511 000 pour l'usine à chapeaux et une subvention de 725 000 euros pour notre maison de l'accueil et de l'action sociale. Il est important de préserver la cohésion sociale et de soutenir les acteurs qui l'entretiennent au quotidien. Un budget également axé sur le service public de proximité avec presque 2,5 millions investis dans les différents services de la ville de Rambouillet, police municipale, vidéoprotection, service du sport, pôle convivialité, pôle famille, culture. Chers collègues élus, au regard de ces projets et mesures ambitieuses, je tiens également à vous rassurer sur la gestion rigoureuse de nos finances publiques. Ce budget équilibré maintiendra notre capacité de désendettement bien en deçà du seuil maximum recommandé. Le résultat d'une recherche permanente de subventions ainsi que d'un contrôle quotidien des dépenses par la Direction générale et le service financier de la ville, mais aussi de tous les services, et je les en remercie ici. À la lecture des orientations budgétaires dont je vous ai fait part dans les grandes lignes, c'est en réalité la sensibilité de la municipalité qui est retranscrite. Une équipe de proximité qui, parce qu'elle est à l'écoute et par-dessus tout prend en considération chacun des habitants, entend leurs besoins et réadapte ses investissements en privilégiant le quotidien et toujours l'humain. Une municipalité autant responsable qu'éco-responsable, qui a pris le virage d'une transition écologique assumée et intelligente pour défendre l'environnement et réduire sa consommation énergétique. Une municipalité qui est dans l'action et l'anticipation, la proposition budgétaire présentée en est la vitrine. Et je vais laisser la parole à Monsieur Gourlan pour vous présenter tout cela.
Merci, merci Madame la Maire. Alors, ce rapport d'orientation budgétaire 2024 voit la première application de la nouvelle norme M57 qui, dans la pure forme, nous voit intervertir les deux sections de fonctionnement et d'investissement. Donc, comme il n'est pas d'habitude, nous commençons par la section d'investissement cette année, puis ensuite la section de fonctionnement. Mais en préalable, un petit point sur la situation et le contexte économique dans lequel nous avons élaboré ce budget. Tout d'abord, la croissance du produit intérieur brut, tel qu'il avait été envisagé dans le projet de loi de finances, était à 1,4%. Et je vous rappelle que ça a une incidence directe sur les recettes attendues du budget de l'État. Or, il y a quelques jours, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que la prévision de croissance finalement était ramenée à 1% pour la ramener finalement au niveau que l'OCDE avait pensé pour la France. Je pense qu'il y avait eu un certain regain d'optimisme dans la construction du budget. Et il y a 0,4% de moins. Ce qui va avoir un impact direct sur le fonctionnement du budget de notre pays. Le déficit budgétaire, qui était initialement prévu à 4,4%, va passer à 4,9% du PIB. Alors, il est toujours un peu délicat de pouvoir se projeter quand on parle de masse monétaire de ce type-là, mais on va essayer d'en appréhender la profondeur, sans mauvais jeu de mots. Pour 2024, les dépenses nettes de l'État sont prévues à 491 milliards d'euros. Or, les recettes attendues sont à 349,4 milliards d'euros, soit un écart de 150 milliards d'euros, ce qui, lorsqu'on le ramène aux recettes fiscales, nous oblige à majorer les recettes de plus de 37%. Donc, nous allons creuser la dette de l'État pour l'emmener à des territoires un peu inconnus jusqu'à présent, à plus de 111,9% du produit intérieur brut. Alors, ces chiffres sont tellement énormes qu'ils parlent peu. On n'a pas l'habitude de manier de telles sommes. Mais en gros, nous empruntons tous les ans 37% de plus que ce que l'on touche en recettes fiscales pour boucler nos dépenses. Alors, ça tenait jusqu'à présent, puisque nous avions encore avant le relèvement des taux, avant la crise inflationniste, des taux qui étaient quasiment négatifs. Donc finalement, l'État s'était endetté en payant moins de charges d'intérêt. C'est en train de s'inverser, puisque vous l'avez constaté comme moi, que maintenant les taux moyens de la Banque Centrale Européenne n'ont pas cessé d'augmenter depuis quelques mois maintenant. Et qu'est-ce que ça dit? Sur ces 349,4 milliards d'euros de dépenses de l'État, elles sont après affectées par mission. À ce jour, dans le budget de l'État, vous ne l'avez pas dans le tableau, mais c'est les éléments que vous retrouverez dans le site du ministère de l'Économie et des Finances, ce que coûte la dette en charge d'intérêt dans le budget de l'État, c'est un peu plus de 50 milliards d'euros par an. Donc sur les 359 milliards d'euros de recettes, ça nous coûte 50 milliards. Et sans modification de la trajectoire budgétaire du gouvernement, dans 3 ans, en 2027, nous passerons de 50 milliards à 84 milliards d'euros par an de charges d'intérêt. Bien de charges d'intérêt. Il faut savoir que le premier poste de dépense dans le budget 2024 de l'État, c'est l'éducation nationale à hauteur de 74 milliards d'euros. Ça veut dire que si on ne change pas la trajectoire des finances publiques, pour la première fois dans l'histoire de France, la première charge du budget de l'État, ce sera le remboursement des charges d'intérêt. Sachant que la dette est majoritairement détenue par des étrangers, ce qui a un effet de lien. Ça, c'est les éléments macroéconomiques. Alors, ces éléments macroéconomiques, ils vont avoir un impact probablement sur nos finances communales. Lorsque nous avons eu la crise des subprimes en 2008, en 2012, le gouvernement qui était en place a demandé un effort considérable à l'ensemble des communes pour redresser les finances publiques. Et on verra tout à l'heure dans les orientations budgétaires ce que ça représente pour notre commune en montant de pertes de recettes. Or, lorsqu'on prend ce que je viens d'évoquer en termes d'endettement, lorsqu'on prend les obligations que l'État va avoir devant lui, restauration de qualité du système de soins, les investissements majeurs que nous devons faire en termes d'éducation nationale, quand on voit la dégradation année après année de notre classement. lorsqu'on va être obligé de monter le budget de la défense, puisque les menaces géopolitiques maintenant se font de plus en plus pressantes, et je ne parle que ces trois dépenses incontournables, je ne parle pas du reste, je ne sais pas comment on va boucler. Et donc, je ne sais pas comment on va boucler, ça veut dire que probablement on va nous mettre à contribution une nouvelle fois. Je ne sais pas quel montant, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quelle durée, mais c'est une menace maintenant que nous devons prendre en compte dans la construction budgétaire, et on verra tout à l'heure comment on constitue ces marges de manœuvre. Voilà pour le sujet du budget de l'État. Concernant l'inflation, eh bien, même si elle s'est ralentie, vous l'avez également constaté dans vos dépenses personnelles, elle restera encore un peu dynamique sur 2024, établie autour de 2,6% selon l'indice des prix de la consommation. Ça, c'est l'effet direct, chers collègues, du fait qu'on a augmenté les taux d'intérêt, donc ça fait baisser l'inflation. C'est un effet direct, pas immédiat, mais direct. C'était voulu et nous avons les résultats maintenant. La croissance économique de notre pays va être relativement dynamique dans la mesure où la consommation des ménages repart et que nous avons une balance du commerce extérieur, même si elle est déficitaire, un peu meilleure. Vous avez ici les éléments de relèvement des taux de la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle que l'objectif de la Banque Centrale, c'est 2% d'inflation par an. Donc là, on était en train de surchauffer. Ils ont monté les taux, ça va se ralentir. Mais ce que nous avons connu sur ces graphiques, la partie en haut à droite, avec des taux quasiment négatifs, est une anomalie économique, quelque chose qui ne se reproduira pas. Et même si vous voyez que les taux directeurs vont redescendre, ils ne reviendront jamais à ce que nous avons connu jusqu'en 2020-21, puisque le taux d'objectif est autour de 2%. Pour les dotations, ce que l'État a promis de nous verser pour nous que notre commune, la dotation globale de fonctionnement n'est pas prévue en baisse cette année. Donc l'effort que j'évoque demandé aux collectivités n'est pas encore activé, mais il le sera quasiment probablement. Mais cette année, c'est encore maintenu. La dotation globale de fonctionnement est à des 27 milliards d'euros en 2024, avec une particularité d'étendre le fonds de compensation de la TVA aux aménagements de terrain, ce qui n'était pas le cas avant. C'est assez directement lié à l'effet des Jeux Olympiques pour soutenir les communes qui ont des gros investissements à faire en la matière. Les autres dotations de l'État sont maintenues, la DSIL, la dotation politique de la ville et la DSIL exceptionnelle. Même si nous l'avons constaté, il faut toujours être précautionneux avec les dotations d'État parce qu'entre le moment où on les sollicite et le moment où on les touche, il y a du temps et il y a de la perte en ligne. On se retrouve parfois avec beaucoup moins que ce qu'on avait attendu. Et donc, sur ce sujet-là, on est très précautionneux dans nos volumes de dotations d'investissement. Je vous ferai grâce de la lecture de la structure des comptes. Vous l'avez ici avec les diverses sections, section de fonctionnement sur la partie haute de la présentation, section d'investissement sur la partie basse. Ce qu'il faut retenir de cela, on s'en synthèse, c'est qu'il nous faut qu'on dégage une marge de fonctionnement pour financer l'investissement et que cette marge de fonctionnement bénéficie d'un levier d'en gros de 5, c'est-à-dire que lorsqu'on fait 100 euros d'économie sur le fonctionnement, ça nous permet de faire 500 euros de dépenses d'investissement supplémentaires et nous nous tenons vraiment dans la gestion pluriannuelle de notre budget à cette vertu. Je vais le détailler par la suite. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première année où nous allons inverser la présentation puisque nous commençons par la section d'investissement qui est un élément remarquable, tout à fait remarquable du budget 2024 et des budgets suivants. Notre capacité de financement de l'investissement a été profondément restaurée. Nous avons un fonds de roulement, donc enfin, en gros une trésorerie fin d'exercice à 20,3 milliards d'euros et la capacité d'investissement sur les années qui suivent, entre 2023 et 2027, entre 20, 13, 10, vous lisez comme moi, jusqu'à 15 millions d'euros de capacité de financement d'investissement en 2027. Nous avons des montants de recettes qui sont tout à fait majeurs et qui vont nous permettre de déployer l'ensemble des investissements. Lorsqu'on accumule l'ensemble de ces capacités, sur la période 2022-2026, nous avons en recettes d'investissement 62 millions d'euros à consacrer aux projets que nous menons. Et ces 62 millions se répartissent selon quatre grands chapitres. L'épargne nette, ce qui provient de la section de fonctionnement pour 17,7 millions d'euros, pardon, ce n'est pas l'État. Ressources primes d'investissement, 10,3 millions d'euros, 22,1 millions d'euros d'emprunt et 11,7 millions d'euros de subventions. On verra tout à l'heure dans les ratios d'équilibre comment cela se ventile. Pour nos dépenses d'investissement maintenant, avant de rentrer dans le détail, il faut retenir que nos dépenses d'investissement connaissent un abondement majeur si l'on compare entre 2023 et 2024. En 2023, nous avons consacré 15,7 millions d'euros à l'investissement. Nous sommes en capacité de consacrer 25 millions d'euros en 2024 pour financer les projets que je vais vous décrire ensuite, et cette capacité d'investissement cumulée de 36,6 millions d'euros sur trois années, 2024, 2025, 2026. Nous verrons après dans la section de fonctionnement ce qui a provoqué, ce qui nous permet de dégager autant de capacités. Il est toujours intéressant de se comparer par rapport aux autres collectivités de la même taille, et vous avez ici les éléments de comparaison. En 2022, nous étions déjà une commune qui investissait plus fortement que la moyenne des communes de notre strate, puisque nous étions à 414 euros par habitant contre 364 euros pour la moyenne. Cet effort majeur d'investissement que nous engageons nous permet de doubler le montant d'investissement par habitant pour porter à 931 euros par habitant, ce qui est tout à fait remarquable et qui donc est l'héritage de la gestion financière de notre collectivité depuis des années et des choix courageux que nous avons faits l'année dernière. J'y reviendrai. Quelles sont ces principales dépenses d'investissement ? Alors, nous avons cette année souhaité l'illustrer un peu et je remercie encore une fois l'ensemble des services financiers et des services de notre municipalité pour avoir constitué ces éléments plus probants, en tout cas plus parlants. Nous continuons, évidemment, grâce à ces marges de manœuvre, à poursuivre ce que l'on appelle les investissements du quotidien dans l'ensemble des secteurs que vous avez ici, dont je vous ferai grâce de la lecture. C'est 2,5 millions d'euros qui se ventilent selon les différents services de notre commune pour pouvoir continuer à entretenir notre patrimoine, entretenir nos services, investir dans le mobilier, dans la rénovation, tout ce qui relève des investissements nécessaires pour le fonctionnement à minima de tous les services de notre commune. À ces 2,5 millions d'euros va s'ajouter les autorisations de programme et crédits de paiement. Alors, je m'arrête quelques instants sur cette technique d'APCP dont vous entendez parler maintenant. Autorisation de programme, ça nous permet de voter ensemble ici en conseil municipal, ce que nous ferons lors du vote du budget le mois prochain, de voter des opérations, un montant par opération. C'est ce qu'on appelle l'autorisation de programme. Et puis ensuite, nous votons dans cette autorisation de programme une ventilation de dépenses par année, ce que l'on appelle les crédits de paiement. Ça a deux vertus, ça a plusieurs vertus bien sûr, mais ça a une vertu importante, c'est de dire que nous sanctuarisons le montant et nous le garantissons. Et les crédits de paiement permettent aux services tout de suite d'avoir une visibilité sur leur capacité à investir et donc de pouvoir être réactifs tout au long de l'année. Et ainsi, on évite ce que nous avons connu les années précédentes où, au premier trimestre, avant le vote du budget, il y avait une sorte de pause qui était faite tant que le budget n'était pas voté. Finalement, là, maintenant, il y a 22,5 millions d'euros qui sont fléchés sur plusieurs années et qui permettent de ne pas avoir de rupture de charge dans le fonctionnement de nos services, notamment les services techniques qui sont les gros pourvoyeurs, évidemment, de dépenses d'investissement. Alors, sur 2024, l'ensemble des programmes, vous l'avez ici, sauf si vous me demandez, je vous ferai grâce de la lecture ligne à ligne, puisque vous retrouvez ça dans la notice, mais vous rappelez les grands investissements majeurs et les modifications importantes que nous apportons par rapport à ce que nous avions l'année dernière. En plus gros investissement sur 2024, c'est le Clay Clairbois, donc qui sera terminé sur cette année, qui sera inauguré au début de l'automne prochain, pour 5,7 millions d'euros. Ensuite, nous poursuivons la rénovation totale de l'éclairage public pour 3,2 millions d'euros, ce qui sera terminé sur l'exercice selon le calendrier initialement prévu. Sur notre patrimoine bâti, je vous rappelle que nous avons plus de 110, je crois que c'est 109 exactement, ou 111 ? 111, voilà, merci. Merci. Donc 111 bâtiments, eh bien nous accélérons très fortement la rénovation de notre patrimoine. Vous avez le pôle patrimoine bâti pour 1,3 millions d'euros, 2 millions d'euros sur l'école Saint-Hubert. Le plan école passe de 500 000 à 1 700 000 euros, gros entretien et hors ADAP. Et les travaux de réhabilitation de l'école Gambetta pour 600 000 euros, plus Arbeauville, 320 000 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en comparaison de l'année dernière, nous triplons nos volumes d'investissement pour l'ensemble de nos patrimoines bâtis. Et ça correspond au choix que nous avons fait, puisque si nous ne voulons pas connaître une nouvelle fois une trop grande sensibilité au coût de l'énergie, nous devons accélérer le plan d'isolation et de rénovation thermique de nos bâtiments pour qu'on baisse nos coûts d'énergie. Donc ces investissements-là qui sont absolument nécessaires, qui vont améliorer la qualité de service, améliorer l'accueil des personnes qui y sont, autant nos agents que nos usagers, va nous permettre aussi de considérablement diminuer la facture et donc d'augmenter nos marges de manœuvre de fonctionnement. Et donc, si on augmente nos marges de manœuvre de fonctionnement, on augmentera nos capacités d'investissement. Donc, c'est un investissement complètement vertueux qui s'inscrit en plus complètement dans l'obligation que nous avons tous maintenant d'économiser l'énergie et de baisser l'empreinte carbone du fonctionnement de nos communes et de nos collectivités. Donc vous voyez que ce choix courageux que nous avons fait nous permet d'avoir des marges de manœuvre conséquentes et d'accélérer le plan de rénovation et de rattraper ce qui a dû être suspendu à cause des dotations d'État. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième grand volet d'investissement sur l'exercice 2024 et suivant, c'est l'accélération du plan de rénovation de nos voiries que vous avez ici dans le pôle espace public à 1 350 000 plus la plan voirie et végétalisation à 1 700 000. 3 millions d'euros cette année plus 3 millions d'euros l'année prochaine pour encore une fois accélérer la rénovation de nos routes dans l'ensemble de notre commune. Et donc on va pouvoir répondre clairement, et visuellement et rapidement aux attentes. Nous avons déjà plus de 900 000 euros d'engagements qui ont été faits sur l'exercice. Nous sommes à peine au quart de l'année et nous avons déjà engagé plus du tiers des dépenses d'investissement sur les voiries. Donc vous voyez que la politique volontaire suit et remercie les services pour leur rapidité.
Au sujet des voiries, juste préciser, en effet, il y a 3 millions pour cette année, 3 millions pour l'année prochaine. Alors ça paraît assez volumineux. Je rappelle juste que 100 mètres aujourd'hui, 100 mètres de voirie, c'est 130 000 euros. Donc forcément, on ne peut pas non plus refaire tout rembouiller aussi rapidement. Et que nous sommes très vigilants à faire des travaux là où nous savons qu'il n'y aura pas d'autres travaux qui seront engagés dans les 3 ans qui suivent les réhabilitations de voiries, pour éviter absolument le phénomène de nous refaisons une route et la route est réouverte dans les mois qui suivent sa réfection. D'une part parce que c'est un mauvais message envoyé à la population qui pourrait se dire que fait la mairie avec l'argent public et qui aurait raison. Et d'autre part, lorsqu'il est question de refaire des pièces sur une voirie alors qu'elle était neuve, eh bien on sait que la qualité en sera moindre. Donc c'est important de savoir que les voiries que nous sommes en train de refaire sont des voiries qui ont été repérées comme étant des voiries prioritaires à refaire. Il y a eu tout un diagnostic qui avait été fait en début de mandat. Un tiers des voiries étaient correctes, un tiers des voiries étaient en état moyen et un tiers des voiries étaient en état à refaire prioritairement. C'est ainsi que nous travaillons aujourd'hui, tout en faisant très attention à des travaux qui pourraient être annoncés et tout un travail avec les concessionnaires des réseaux qui sont rencontrés régulièrement par nos services techniques afin de voir avec eux la programmation pluriannuelle qu'ils ont eux, sachant que malgré tout nous avons parfois de très mauvaises surprises qui peuvent arriver et on se rend compte que tout à coup, alors qu'on démarre des travaux, il nous est dit finalement c'est là que l'on va faire quelque chose. Donc après c'est de la négociation pour éviter de refaire des tranchées. Mais c'est important de le préciser parce que, en effet, aujourd'hui, nous avons cette volonté de rattraper cette dégradation des voiries. Je rappelle aussi que les voiries qui sont à l'intérieur de la ville sont des voiries qui ne sont pas faites pour supporter les circulations que nous connaissons aujourd'hui à l'intérieur de la ville, par les déviations qui sont établies par les différents supports que l'on peut avoir et qu'on est bien content d'avoir lorsqu'on est conducteur type Waze, mais qui ont tendance à dévier dans les villes. Et nous ne sommes pas la seule ville, parce qu'en parlant avec mes collègues maires, nous avons les mêmes difficultés dans beaucoup de communes, des déviations de la circulation de nationale qui se retrouvent reportées sur l'intérieur des villes pour éviter des bouchons. Et ça, c'est assez, c'est délétère, il faut le savoir, parce que ça fait une fréquentation de nos voiries bien au-dessus de ceux pour lesquels elles sont prévues, parce que vous imaginez bien qu'entre une route nationale ou départementale et une route d'intérieur de ville, eh bien, les enrobés ne sont pas les mêmes. Voilà, donc je voulais apporter cette précision-là, parce que 3 millions d'euros, c'est en effet très important, mais il faut bien voir que ça ne permet pas de refaire tous les 76 km de voirie que nous avons dans la ville de Rambouillet en un coup de main, ni même si on rajoute les 3 millions de l'année prochaine.
Et pour terminer, deux items sur lesquels nous souhaitons vous faire un focus. 479 000 euros pour la poursuite de nos déploiements des circulations douces et favoriser ce nouveau mode de déplacement dans notre ville. Et enfin, un budget de 530 000 euros pour la rénovation de nos cimetières, ce qui était en souffrance depuis un certain nombre d'années et qui donc sera engagé en 2024. Voilà pour les grandes lignes de section d'investissement. Donc retenons un doublement de montant d'investissement par rapport à 2023, compte tenu des décisions que nous avons prises. Vous avez ici la description de ce plan école. Je l'ai fait en lisant le tableau avec quelques illustrations. L'école Saint-Hubert, Foch-Gambetta, l'hôtel de ville, le pôle gare, le plan voirie, on vient d'en parler, et la rénovation de l'espace public. Voilà pour l'ensemble de la section d'investissement. Alors, cette section d'investissement, elle est évidemment nourrie de la section de fonctionnement. Et donc, on va faire d'abord un petit focus sur la partie recettes. Nous avons donc sur les recettes des produits, des services et du domaine, au chapitre 70, une évaluation à environ 3 100 000 euros sur 2024, après avoir connu en 2023 un montant de 3 800 000 euros, ce qui était un rattrapage des années antérieures. Et donc, on revient à un niveau et un rythme de produits des services qui n'avait connu avant la crise Covid. À ceci près que le montant étant égal, ça veut dire que l'érosion de l'inflation fait que nous n'avons pas souhaité augmenter globalement les tarifs des services de la ville de Rambouillet envers les administrés pour ne pas trop les pénaliser. Donc c'est le budget principal qui supporte cela. Pour la partie recettes fiscales, alors quelques éléments d'appréciation. Le scénario prospectif ne prévoit pas donc d'augmentation de la fiscalité pour 2024 et 2025. Nous connaîtrons simplement la revalorisation des bases fiscales de 3,9% telle que l'État l'a décidé dans le projet de loi de finances et une croissance organique. Quand on dit organique, c'est simplement le nombre de constructions que nous faisons sur notre ville de 0,7%, ce qui nous permettra d'attendre un produit fiscal de 33,5 millions d'euros en 2024 contre 32,5 millions d'euros en 2023. Donc nous sommes conformes au plan pluriannuel d'investissement et au montant qui avait été annoncé lors de la décision de l'année dernière, et ce qui nous permet donc de dégager les marges de manœuvre attendues. Pour l'attribution de compensation, je vous rappelle que cette attribution est le montant versé par l'agglomération Rambouillet Territoire à l'issue de la réforme de la taxe professionnelle. Il est prévu à égal montant entre 2023 et 2024, puisqu'il n'est modifié que s'il y a transfert de compétences. Comme il n'y a pas de transfert de compétences, le montant est strictement le même que l'année dernière. Pour les ressources compensatrices de l'État, alors il est important de noter que même si la dotation globale de fonctionnement que j'ai annoncée tout à l'heure, qui est de 27 milliards d'euros cette année, est en augmentation à l'échelle nationale, mais pour nous, elle diminue. Tout simplement parce qu'au sein de cette enveloppe nationale, il y a une sorte de reventilation qui se fait entre les communes riches et les communes pauvres. Comme nous sommes une commune estimée riche au regard des ratios de la DGFiP, eh bien nous contribuons pour d'autres communes. C'est fait que notre dotation globale de fonctionnement diminue encore cette année. La dotation forfaitaire, vous le voyez comme moi, diminue. Elle était de 1 463 000 en 2023, 1 428 en 2024. Lorsque l'on prend le cumul de cette perte de dotation, ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon introduction, quand on a contribué, nous, les communes, au redressement des finances publiques à la suite de la crise des subprimes, ça fait un peu rêver. En 2013, nous avions 4 600 000 euros de dotation de l'État, lorsqu'en 2023, nous avons 1 400 000 euros. Et ça, tous les ans. Donc c'est là, c'est ce phénomène-là, plus le phénomène suivant, qui est le fonds de péréquation intercommunale, qui fait que quand on additionne les deux, nous avons perdu 6 années d'investissement. 6 années de capacité à investir, à rénover notre patrimoine public, à rénover voirie, à poursuivre l'investissement nécessaire, ont été disparus, ils ont été dissous. Et donc forcément, ça a eu un impact. C'est pour ça que nous avons fait ce choix d'accélérer, de doubler le montant des investissements pour que ce que l'État nous a obligé de couper, on le rattrape maintenant. Vraiment prendre en considération ça. 23 millions de pertes cumulées sur la dotation seule entre 2014 et 2022. Et malgré tout, nous faisons front. Nous continuons à assurer une haute qualité de service public. Sur les autres produits de gestion courante, c'est les revenus des immeubles et la location de salles, nous avons eu une régularisation exceptionnelle en 2023, et donc nous reviendrons à un montant normal en 2024 pour revenir dans des étiages que nous avons connus jusqu'à présent, hauteur de 1 million, hauteur de 640 000 euros, pardonnez-moi. Sur ce chapitre-là, nous avons également les redevances de la restauration et les autres produits de gestion courante, mais pour des montants qui restent marginaux. L'effet de ciseau que nous aurions connu si nous n'avons pas fait choix. L'effet de ciseau, quand vous regardez l'histogramme, c'est la différence entre l'histogramme bleu et l'histogramme vert. La différence entre l'histogramme bleu et l'histogramme vert, c'est ce que nous pouvons consacrer à l'investissement. Vous prenez les 4 premières années, 2019-2022, des recettes à hauteur de 41 millions d'euros en 2022. Vous voyez que si nous n'avions pas fait ce choix courageux de l'année dernière, nous aurions un histogramme vert qui aurait dépassé l'histogramme bleu, ce qui nous aurait mis en cessation de paiement. Ce n'est pas possible. Donc nous avons fait ce choix de restaurer nos marges, et c'est pour ça que l'écart que nous conservons entre liste et histogramme nous permet d'avoir cette politique d'investissement très conséquente que je viens de décrire il y a quelques instants. La structure des charges de fonctionnement n'avait pas de remarques particulières, elle est conforme à l'année dernière, avec 53% de charges de personnel, 29% de charges à caractère général, 9% du chapitre 65, et le reste s'est ventilé de manière tout à fait conforme à ce que nous connaissons. Pour les dépenses de fonctionnement, nous tenons à saluer, Madame le maire et l'ensemble des élus, l'effort conséquent que les services ont fait pour contenir l'évolution de ces charges malgré l'inflation, malgré les hausses du coût de l'énergie. Avec un statut et un salut tout particulier au comité de sobriété énergétique qui, dès le déclenchement de la crise ukrainienne et l'explosion des coûts d'énergie, a engagé un plan drastique d'économie de consommation qui nous a permis de baisser de 17%, un peu moins de 17%, les volumes de consommation. Et si nous n'avions pas fait ça, nous aurions vu nos charges encore plus exploser. Malgré tout, on a connu une augmentation de x3 sur les coûts de l'énergie. On a été chercher toutes les économies possibles. Et en faisant ces efforts majeurs auxquels tout le monde a contribué, eh bien, ça nous a permis de contenir ces charges à caractère général. Elles seront en augmentation en 2024 par rapport à 2023, malgré l'ensemble de ces efforts, compte tenu des coûts de l'énergie qui ne baissent pas aussi vite que prévu, compte tenu de la hausse de l'ensemble des charges liées à l'inflation et la hausse des dépenses d'alimentation, tout particulièrement dans les marchés que nous avons passés, notamment pour la restauration scolaire. Nous poursuivrons en 2024 ces efforts de gestion, nous poursuivrons cette dynamique, c'est le pli qui est pris par l'ensemble des services pour continuer à contrôler nos dépenses et à ne connaître en augmentation que ce que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire les éléments exogènes. Sur les charges de personnel, lorsqu'on prend un lissage entre 2022 et 2023, c'est 2,24% qui ont été constatés et qui sont les éléments qui sont affichés ici. L'augmentation du point d'indice de 3,5% en juillet 2022 pour permettre aux fonctionnaires publics, territoriaux et nationaux de ne pas trop subir le problématique de l'inflation. Et ce point d'indice a été revalorisé d'1,5% en juillet 2023. Les points d'indice majorés, l'évolution du SMIC, le minimum de traitement, l'impact en 2023 de ces charges est de 661 978 euros. Et malgré tout, nous avons réussi à économiser 334 000 euros sur les charges de personnel en faisant les efforts de gestion que nous avons fait et que nous avions décrit.
Alors, juste pour rajouter sur les charges de personnel. Les charges de personnel, elles représentent 53,06% du budget de fonctionnement pour 2023. Et sur les collectivités de la strate équivalente, nous avons des sources qui viennent de la Direction générale des collectivités locales qui, pour la même strate, annoncent des charges à hauteur de 61,6% en 2022. Donc nous, je rappelle, 53,06% en 2023 pour sur les collectivités de strate identique équivalente en 2022, 61,6%. Ce qui donne un taux d'administration au 31 décembre 2023 pour la ville de Rambouillet. Si on prend le nombre d'agents équivalent temps plein pour 1000 habitants, on est à 16,9, soit 456,14 ETP. Alors que pour les communes de la même strate, de sources toujours de la Direction générale des collectivités locales, on est à 19,1, soit 515,17 ETP. Je souhaitais le signaler parce que quand on dit qu'on a un engagement aussi sur les dépenses de ressources humaines, on l'a réellement, et c'est un travail qui est fait quotidiennement par notre service de la direction des ressources humaines et aussi, bien sûr, par la direction générale des services pour adapter au mieux le nombre de personnels au service public. Et je rappelle que nous avons un service public ici à Rambouillet qui est salué par de nouveaux habitants qui arrivent d'ailleurs. Donc nous avons finalement au total des charges de personnel qui sont moins importantes que des villes de la même strate que nous, avec un service public supplémentaire.
On termine la présentation.
On termine la présentation et puis on reviendra après. Vous notez vos questions. Non, pour 1000 habitants ici à Rambouillet, c'est 16,9. 16,9, soit 456,14 ETP, alors que sur les autres villes de la même strate, c'est 19,1, soit 515,17 ETP.
Pour, voilà, donc vous avez la répartition hein, de ces ETP par catégorie du grade, avec une ventilation qui est somme toute tout à fait classique pour une ville de notre taille, et pour une ville notamment avec une majorité de catégorie C, et puis après une ventilation vers de B et A. Sur l'augmentation en 2024 de 5,96%, cette augmentation est pour 46,79% liée aux facteurs conjoncturels, c'est-à-dire ceux qu'on ne maîtrise pas, les facteurs exogènes. L'augmentation des taux de cotisation des accidents, la revalorisation des participations aux frais de transport, la revalorisation des grilles indiciaires, l'avancement de grade et d'échelon, l'attribution de 5 points d'indice majorés, l'impact de la revalorisation du point d'indice, l'augmentation du SMIC. Donc tout ça va provoquer une augmentation de 591 000 euros, soit 46,79% de ce que je viens de la totalité de l'augmentation. Vous aurez dans le document des éléments un peu plus précis, catégorie et par montant. Le reste de cette augmentation est lié aux décisions qui relèvent cette fois de notre exercice, avec le renforcement d'un certain nombre de services. Nous avons donc le souhait de renforcer les secteurs de l'animation, les secteurs de la sécurité et de la salubrité publique pour 183 000 euros. Nous avons aussi les impacts en année pleine des décisions qui ont été prises en 2023, puisque lorsqu'on embauche à une demi-année, bien sûr l'année suivante, c'est à 100% de l'année que cela se répercute. Donc ça vient aussi ajouter l'augmentation. Et puis la dernière chose qui est importante de noter, c'est que nous avons aussi un certain nombre de métiers qui sont en tension dans le terme de recrutement. Hein, dans toutes les collectivités connaissent ça. Et donc mécaniquement, entre l'offre et la demande, par le jeu de l'offre et la demande, eh bien, ça engendre mécaniquement une augmentation des rémunérations. C'est-à-dire que quand un poste se libère et qu'on veut recruter de nouveau, nous sommes souvent obligés de faire une offre de rémunération supérieure à ce qu'on avait connu, tout simplement pour être attractif. Donc ces trois facteurs cumulés provoquent cette augmentation, malgré le contrôle extrêmement strict des organigrammes, et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un agent nous quitte, soit pour raison personnelle, soit pour un départ en retraite, nous nous interrogeons systématiquement pour savoir si son remplacement doit se faire de poste à poste, mission à mission, ou si ce n'est pas l'occasion de repenser les organisations pour une meilleure optimisation de la dépense publique. Voilà pour la partie charges de personnel. Pour les autres charges de gestion courante, ce qu'il est important de noter, c'est qu'entre 2020 et 2024, nous avons augmenté de plus de 100 000 euros l'aide aux associations, progressivement, pour les aider à traverser la crise Covid et redémarrer le mieux possible. Et cette enveloppe de subvention est portée à 1 088 000 euros sur 2024. Pour l'accueil et l'action sociale, le budget va être considérablement augmenté cette année de manière à ce que le CCAS puisse reconstituer son fonds de roulement qui a été impacté en 2023. Et cette reconstitution de fonds de roulement s'accompagne également d'une refonte, une réorganisation du fonctionnement du Centre communal d'action sociale.
Alors oui, cette augmentation, en effet, est conséquente. Plusieurs raisons qui ont été présentées au dernier conseil d'administration. Alors déjà, il faut savoir que le CCAS travaille en étroite collaboration désormais parce qu'il y a un vrai partenariat qui est fait entre le CCAS et les services de la ville avec le service des finances. L'année dernière, en fait, depuis plusieurs années, la subvention octroyée à la maison de l'accueil et de l'action sociale n'avait pas été revalorisée puisqu'ils avaient des réserves et qu'on leur avait demandé d'utiliser leurs réserves jusqu'à l'année dernière avec le fonds d'urgence, tout en leur disant bien l'année dernière que s'il y avait besoin, nous allions réabonder ce fonds d'urgence parce que nous savions qu'en termes social, il pouvait commencer à y avoir des difficultés. Ce qui a été la réalité, donc nous avons un peu abondé l'année dernière Cette année, cette augmentation substantielle est donc due, d'une part, au fait de permettre au CCAS de refaire des réserves et d'avoir ce fonds d'urgence. D'autre part, ça constitue une partie qui est constituée par cette augmentation, c'est aussi le renouvellement de la DSP restauration, puisque je rappelle que le CCAS a une restauration d'une part au niveau de la résidence du Bon Vieux Temps, mais également du portage de repas, et que malgré tout, alors le marché a été relancé, il a été annoncé infructueux une première fois dû au prix excessif qui était demandé, il a été relancé, et malheureusement, la deuxième fois, il n'y avait plus qu'un candidat qui a tout de même présenté des prix qui avaient plus que doublé. Et ça va avoir un impact important sur le budget du CCAS, puisqu'il n'est pas question non plus de faire porter à des personnes qui ne pourraient pas le faire cette répercussion de la hausse des prix. Alors, il y a bien sûr un travail malgré tout qui a été fait en créant un tarif supplémentaire pour des personnes ayant des ressources plus importantes, mais nous ne bougeons pas les plus petits quotients parce que ces personnes sont en difficulté. Et puis, il y a également dans cette augmentation la prise en considération des travaux qui sont faits sur le Bon Vieux Temps, puisque les travaux qui sont faits sur le Bon Vieux Temps le sont par la CEMIR, à qui appartient ce bâtiment, mais par convention, il y a une participation du CCAS au remboursement des intérêts des emprunts pour l'élaboration de ces travaux. Donc tout cela est pris en compte. Pour l'année prochaine, je pense que nous n'aurons pas de changement, voire peut-être encore une augmentation, parce qu'il y aura encore cet effet travaux. Et puis, bien sûr, petit à petit, les choses pourront de nouveau se stabiliser. Quoi qu'il arrive, tant que nous serons là, il est évident qu'il y aura cette volonté, de toute façon, d'abonder ce budget, parce qu'il est question de social et nous devons, et c'est une politique que nous portons, d'accompagner, de faire un accompagnement social de toutes les personnes qui peuvent avoir besoin de la maison de l'accueil et de l'action sociale. Et je rappelle que ce ne sont pas non plus que des publics précaires, mais que ce sont aussi des familles et des personnes âgées. Voilà l'explication sur ce budget.
Et enfin, la reversement au parking du légataire qui est maintenu à peu près au même montant que 2023 et 2024. Je vous rappelle qu'on reverse l'intégralité des recettes modulo une redevance de 140 000 euros par an. Concernant notre dette, elle est complètement sous contrôle avec un taux moyen très faible de 3,31%, un montant de 40,2 millions d'euros, classé 1A sur la charte Gisler, soit absolument sans risque. On verra dans quelques instants, dans le cadre de la prospective, quelles sont les mobilisations d'emprunt et le taux d'endettement que nous souhaitons atteindre dans les 2-3 années qui viennent. Le ratio de la dette, il est ici, vous le voyez, l'encours qui augmente légèrement, mais qui est conforme à nos années, avec une capacité de désendettement qui se maintient dans des étiages autour de 6-7 années de désendettement, ce qui est tout à fait satisfaisant. Et d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes n'a pas manqué de le signaler dans son dernier rapport. Sur le baromètre de cette capacité d'endettement, pour avoir un élément d'appréciation, vous avez ici donc une progressivité potentielle avec le positionnement de notre commune, 6,4 années, qui est donc dans la zone tout à fait médiane. Le sujet, sachant que le seuil d'alerte de financement très dégradé est à 12 années, évidemment, on n'attendra jamais ça, puisque nous faisons le choix d'une gestion pluriannuelle des investissements pour éviter ce genre de risque. Enfin, le taux d'épargne brute est à 13,6%. L'épargne brute, je vous rappelle, c'est ce que nous dégageons de notre recette de fonctionnement, combien on dégage de marge pour l'investissement. C'est ce qui nous permet d'avoir ce plan d'investissement très volontaire. Un petit point sur ce Fonds national de péréquation individuelle des ressources, le fameux FPIC. Je dis fameux dans le sens un peu ironique du terme, puisque depuis donc sa mise en place, nous contribuons systématiquement à ce fonds de péréquation intercommunale à hauteur d'1 million d'euros par an. C'est les communes riches qui aident les communes pauvres. Et pour votre information, près de 90% du montant total du FPIC qui est prélevé en France va dans le département des Seine-Saint-Denis dans le 93. Pour le tableau de bord de pilotage, donc vous avez ici retrouvé maintenant classiquement comme tous les ans les éléments d'appréciation pilotage pluriannuel de notre commune. Vous aviez en rouge ici en 2022 la tendance à l'épargne nette, c'est-à-dire combien nous dégagions pour l'investissement. Si nous n'avions rien fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tombions en territoire négatif, ce qui est interdit par le Code général des collectivités territoriales. Nous avons fait le choix, nous avons fait la décision courageuse donc de faire cette augmentation fiscale et donc nous sommes revenus à des taux d'épargne nette autour de 3 millions d'euros, ce qui est celui que nous attendions sur les années antérieures pour pouvoir financer ces investissements. Notez bien, messieurs, que notre encours est maintenu constant entre 2023 et 2025 autour de 41 millions d'euros. Et ce montant d'investissement, ce montant d'encours, pardon, est remboursé en 6 années d'épargne brute. Ce qui est donc, encore une fois, dans les ratios que j'avais montés tout à l'heure, celui-ci est tout à fait dans la norme, tout à fait satisfaisant. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, madame le maire, ce que je pouvais dire comme les grandes orientations budgétaires de notre commune.
Merci, monsieur Gourlan. Alors donc, en conclusion, vous l'avez constaté, une volonté d'investir plus cette année, une capacité d'investir plus, qui va nous permettre forcément après d'améliorer aussi le fonctionnement, parce que investir aujourd'hui, par exemple sur le bâtimentaire et en termes de réhabilitation énergétique, ça va nous permettre de dégager des possibilités en termes de fonctionnement sur les années à venir. Et comme le disait Monsieur Gourlan tout à l'heure, si on prend par exemple 1 000 euros d'économie en fonctionnement permettent 5 000 euros d'investissement, ce qui est un facteur multiplicateur qui permet de très vite monter en termes d'investissement. Donc nous sommes là pour investir et permettre de rattraper aussi cette période qui a vu les dotations fondre comme neige au soleil. Et nous savons aussi, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, parce que je sais que c'est un reproche qui est fait, que les choses n'avaient pas été suffisamment anticipées. Encore faut-il, pour pouvoir anticiper, avoir les ressources pour faire ces travaux. Et je me félicite aujourd'hui que, dès le début du mandat, alors même qu'il n'y avait pas de crise énergétique qui était annoncée, nous ayons commencé. Quand je prends l'exemple, par exemple, de l'école d'Arbouville, sur laquelle nous avons fait, dès le début du mandat, une réhabilitation énergétique, sur laquelle nous attendions 30% d'économie d'énergie, de consommation, 30% de consommation d'énergie. Nous sommes arrivés finalement au bout d'un an, puisque là, il y a eu un an de fonctionnement et nous avons pu faire le bilan, nous avons finalement 40% d'économie de consommation d'énergie. Donc nous sommes encore au-dessus, ce qui nous laisse des marges supplémentaires et ce qui nous laisse aussi des marges supplémentaires pour investir. Donc je me félicite que nous puissions faire cela aujourd'hui. Et puis également, le fait de le faire aujourd'hui et de ne pas l'avoir fait avant, ça nous permet également de bénéficier de nouvelles technologies. Et quand on voit par exemple sur l'école Saint-Hubert la réfection de la toiture avec la mise en place d'une mini-centrale solaire, eh bien, je pense que c'est des choses qui n'auraient pas été mises en place si cela avait été fait il n'y a ne serait-ce que 10 ans. Donc voilà, il faut savoir aussi en tirer profit. Nous continuerons et je rappelle que dans le 1,7 million qui a été annoncé sur le plan école, de ce 1,7 million sont dégagées bien sûr les réhabilitations énergétiques qui, elles, font partie de programmations bien spécifiques. Donc sur le 1,7 million du plan d'école, nous y travaillons avec M. Dupressois et avec les services techniques, on est bien sur des travaux du quotidien pour l'amélioration de nos écoles et pas forcément que sur l'énergétique. Donc voilà, il est important de préserver ce patrimoine que nous avons. Nous y attelons fortement et c'est aussi, il faut le rappeler, pour le confort des usagers qui, pour beaucoup, sont des enfants et des équipes enseignantes et d'animation, puisqu'il y a beaucoup dans les bâtiments, il y a aussi beaucoup d'écoles et des bâtiments qui sont quand même déjà vieillissants. Voilà sur la conclusion. Je voulais juste revenir sur les associations pour vous dire que par rapport aussi à l'engagement que nous avons vis-à-vis du social, mais aussi de la culture, nous avons augmenté la subvention de l'usine à chapeaux cette année puisqu'elle sera à hauteur de 511 000 600 euros cette année, alors qu'elle était auparavant de 496 776. C'est quelque chose qui a été travaillé et que je tiens à saluer parce qu'il y a une nouvelle façon de fonctionner avec l'usine à chapeau, des groupes de travail qui ont été mis en place et qui sont très efficaces pour permettre en fait de monter un budget qui soit cohérent et surtout des actions qui sont très transversales et qui fonctionnent désormais très très bien avec nos différents services de la ville, donc un vrai partenariat. Et je rappelle à quel point l'usine à chapeau est un des acteurs principaux sur la ville de Rambouillet sur bien des sujets. Voilà ce que nous voulions vous présenter. Donc, j'attends de voir s'il y a des questions.
Oui, quelques petites questions. Alors, merci d'abord pour cette présentation et en plus de permettre des éclaircissements sur des budgets qui ont évolué de 700 000 à 1,7 million. Je me demandais vraiment ce que c'était. Et vous avez répondu sur les pôles patrimoine bâti, ainsi de suite. Moi, ce que je regarde, en fin de compte, c'est les choix qui ont été faits. Je vois réapparaître le quartier de la gare, donc je ne sais pas exactement pourquoi il réapparaît et pour quelles raisons donc on réintroduit ça. Je m'aperçois que la maison du quartier du Bel Air n'est toujours pas financée et je vois apparaître un local associatif du Clos Battant, donc je vois bien ce que c'est, mais pourquoi ces choix ont été faits par rapport donc à ce bâtiment qui est très important de la maison du quartier du Bel Air. Donc ce sont des questions que je me pose, puisque le Bel Air avait été fléché en 2022 pour 210 000 euros. Donc je pense qu'il y avait, alors son montant était plus élevé que ça, bien évidemment, mais je pense qu'il y avait peut-être la possibilité de réintégrer ce quartier-là. Voilà, ça ce sont des questions de base sur des besoins des quartiers.
Alors sur la question de la maison de quartier du Bel Air, en effet il y avait eu 210 000 euros qui avaient été... fléché, mais je rappelle qu'à l'époque, il était question d'une réhabilitation de la maison de quartier du Bel Air. Entre-temps, il y a eu un diagnostic qui a été fait, enfin plus qu'un diagnostic parce que c'était visuel et donc un diagnostic a été fait, montrant que ce bâtiment était très fragile et qu'il était donc préférable de le déconstruire et de finalement refaire un projet à zéro et un nouveau bâtiment. Ce projet n'est pas stoppé. Ce projet est juste reporté dans le temps avec un APCP qui apparaît dans le plan pluriannuel d'investissement, mais retardé à partir de 2026. En revanche, en effet, apparaît aujourd'hui le bâtiment du Clos Battant. Je rappelle que sur le bâtiment du Clos Battant, était prévu au tout départ que ce bâtiment soit rasé et que des logements sociaux y soient construits. Nous avons... très vite au début du mandat, revu ce principe, garder et finalement préférer garder ce bâtiment du Clos Battant, d'autant que nous avions le projet du CLAE et que ce bâtiment pouvait nous servir, puisqu'il n'est plus du tout utilisé, c'était anciennement les résidences des instituteurs, qui n'étaient plus du tout utilisées, et très vite est apparue la possibilité d'utiliser ce bâtiment pour faire la base de vie d'une part du chantier du CLAE et surtout beaucoup plus intéressant, enfin encore plus intéressant, d'y mettre la restauration scolaire le temps que la construction du CLAE se fasse, puisque là où nous avions prévu de faire le CLAE en deux tranches, il a été décidé de le faire d'un seul bloc parce que déjà c'était des économies à la clé, donc c'était important. Et donc ce bâtiment a eu pour vocation et a encore pour vocation d'être actuellement base de vie au premier étage des travaux et au niveau du rez-de-chaussée, la restauration scolaire. Et par le biais de tractations que nous avons pu faire, puisque les entreprises y faisaient leur base de vie, il y a eu une réhabilitation à l'intérieur de ce bâtiment qui en avait bien besoin, puisque il ne vous avait certainement pas échappé qu'il avait été squatté à un certain moment. Donc ces réhabilitations nous permettent aujourd'hui d'entrevoir la possibilité d'y mettre des associations. Et comme vous le savez, les associations, nous sommes toujours à la recherche de locaux pour les associations et que nous souhaitons vraiment que les associations soient le plus possible au cœur des quartiers et de les dispatcher parce que c'est aussi un système de vie des quartiers. Donc, c'est en effet un nouveau projet, mais c'est un petit peu ce que je disais dans mon introduction. Finalement, être élu, c'est aussi réadapter ses choix en fonction des opportunités. Or là, c'est vraiment un choix d'opportunité par rapport à une possibilité d'utiliser et de finalement permettre à ce bâtiment de continuer à vivre, de ne pas être squatté parce que occupé en permanence. Et c'est ce qui nous permettra d'abriter de nouveau des associations. Donc voilà. En ce qui concerne le pôle gare, alors vous le savez, ce projet du pôle gare que nous annonçons depuis longtemps ne dépend pas que de nous et que quand nous sommes en lien avec des partenaires tels que la SNCF, Île-de-France Mobilité, ça n'est pas facile, surtout que la SNCF, il y a plusieurs partenaires au sein de la SNCF. Pourquoi les choses réapparaissent ? Parce que nous avons la possibilité cette année d'avoir déjà une action au niveau de ce qu'on appelle le PASSO, c'est-à-dire le passage, le fameux passage souterrain. La SNCF a accepté d'y faire des travaux dès cette année, après les JO. Ça, on nous a bien prévenu que ça serait après les JO, parce que tout est un peu gelé avec les JO, on l'a bien compris. Donc, structurellement, la SNCF va prendre en charge les travaux de ce passage, qui est très important, hein, parce que ça sert de liaison douce, ce passage, et ça permet de passer d'un quartier à l'autre. Et nous, nous avons un budget sur ce passage pour permettre de l'embellir. Il va y avoir tout un travail qui va être fait par un artiste pour faire de ce passage quelque chose d'agréable et qu'on entretiendra et qui permettra d'offrir une qualité pour les voyageurs qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément Rambouillet et qui passent par ce passage, mais surtout pour les rambolitains qui peuvent l'utiliser plusieurs fois par jour. Donc voilà la raison pour laquelle ça ressort, parce que ça fait partie du projet gare, pas en surface, mais en souterrain, mais un souterrain qui est très important. Oui, tractation. Monsieur Cintra me précise, tractation de 10 ans avec la SNCF. Donc oui, là, on accroche.
On s'en doute, mais en tous les cas, on est satisfait parce que très sincèrement, ce souterrain, c'est une véritable verrue très mauvaise au sein de la ville et qui est véritablement en plus visible par beaucoup de personnes qui viennent dans la ville de Rambouillet. Le fait qu'il y ait cette maison d'association, bien évidemment, on comprend et on sait qu'on a véritablement des besoins, mais est-ce que les associations, pas forcément que du quartier de la Clairière, pourront aussi accéder à ce lieu, parce que il y a véritablement des besoins profonds et ce n'est pas forcément lié à des associations qui se trouvent dans le quartier.
Alors, je me suis sans doute mal exprimée. Quand je parle d'associations dans les quartiers, ce ne sont pas les associations du quartier. C'est la volonté d'amener le tissu associatif dans les quartiers, mais pas forcément les associations du quartier. Hein. Et puis pour ce qui est de la maison du Bel Air, il y a aussi, je le rappelle, hein, quand on fait des choix et qu'on réadapte, il y a aussi, je le rappelle, d'autres choix qui ont été faits d'opportunités. Et par exemple, quand même, la réfection de l'ensemble de l'éclairage public, qui est un budget de 4 millions. Donc forcément, il faut faire des choix et des arbitrages à un moment donné qui sont importants. Et le choix aussi que nous avons fait, mais ça c'est aussi en toute responsabilité, c'est de se dire plutôt que de construire une maison de quartier du Bel Air, j'oserais dire au rabais, parce qu'on n'aura pas les moyens de la faire comme on souhaiterait le faire, eh bien on préfère décaler le projet et permettre de créer un bâtiment qui soit de qualité et qui soit un bâtiment qui servira pendant des années et qui correspond exactement aux besoins, parce qu'il y a déjà, hein, les études ont déjà été faites et on sait que c'est l'occasion de vraiment permettre une maison de quartier qui sera certainement beaucoup plus utilisée que celle qui était auparavant et qui permettra là aussi d'amener encore de l'associatif dans un quartier. Thiers.
Oui, merci Madame le maire. J'avais simplement une question, une remarque sur les comparaisons que vous faisiez sur le ratio de nos ressources humaines par rapport au nombre d'habitants et d'habitantes. Est-ce que vous avez des indicateurs un petit peu plus précis ? Parce qu'en fait, ceux que vous nous présentez, ils dépendent énormément des services qui sont délégués en DSP et de ceux qui sont intégrés en régie par les différentes communes de la même strate. Donc en fait, dire qu'on a tel et tel ratio et se comparer par rapport aux communes de la même strate, si on ne le fait pas à périmètre de compétences équivalent assuré par la collectivité, ça n'a pas vraiment de correspondance. Donc est-ce que vous avez des indicateurs un petit peu plus... qui prennent en compte les choix des communes dans le fait de mener en régie ou en DSP, parce que les personnels des DSP, évidemment, ne sont pas inclus dedans. Dans ce cas-là, il faudrait inclure les coûts de la DSP pour faire des comparaisons. Enfin, voilà, tout ça est un peu complexe. Et
alors,
les indicateurs ne sont pas forcément...
Je comprends. Je ne les ai pas là, mais on pourra tout à fait les retrouver et vous les donner. Sachant tout de même que quand on voit qu'il y a une différence de 8% tout de même sur le budget de fonctionnement, c'est déjà quand même énorme. Et que, évidemment, il y a des services qui peuvent, des villes de la même strate, qui peuvent ne pas avoir autant de DSP, encore que nous n'avons pas tant de DSP que ça, hein, parce que nous avons la DSP de la restauration scolaire. Et je rappelle tout de même que sur les villes de notre strate, pour la plupart, elles sont en DSP. Et nous avons la DSP du stationnement, qui de toute façon, je le rappelle, hein, est aussi quelque chose qui est passé par une loi et qui, étant donné la dépénalisation, n'est plus porté en règle générale par les polices municipales. Il faut quand même le dire, je le rappelais en le disant, nous sommes aussi ici sur un service de qualité supérieure. Quand on prend les ratios que je vous ai donnés, c'est sur les mêmes strates, sur des villes de même strate, et c'est à l'habitant, c'est-à-dire que c'est pour 1000 habitants. Donc on revient tout de même à des ratios qui sont quand même assez comparables. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde en termes d'animation, M. Gourlan l'a précisé, il y a forcément des évolutions au niveau, par exemple, de notre service d'animation, parce que nous proposons des centres de loisirs, nous proposons des clés qui finissent assez tard par rapport à bien d'autres villes. Il y a quand même très fréquemment des villes qui terminent les centres de loisirs à 18h, ce qui met les parents dans des difficultés majeures. Nous allons au-delà, puisque nous allons jusqu'à 18h45, et que nous sommes sur des ratios qui sont contraints, et c'est tant mieux, en termes de sécurité. Donc les fluctuations... Elles sont forcément assez importantes. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec l'inspectrice de l'éducation nationale. Quand je parle d'un service public qui est de qualité, c'est salué par les enseignants, c'est salué par l'éducation nationale, puisque les enseignants ne veulent surtout pas quitter, les enseignants de maternelle en tous les cas, mais même en élémentaire. Mais les enseignants, par exemple, de maternelle ne veulent surtout pas quitter la ville de Rambouillet parce qu'elles savent qu'ici, il y a une ATSEM par classe. Et que ça, c'est une véritable qualité apportée à nos enfants dans les écoles et pour les enseignants qui sont sûrs et certains d'avoir quelqu'un avec eux dans les classes. Donc c'est tout cela qui est important en termes de qualité de service public. Il y a beaucoup, l'inspectrice de l'éducation nationale me disait hier, et je pense que M. Dupressoir peut aussi donner des précisions parce qu'il est membre du bureau de l'Association des maires adjoints à l'éducation, dont je faisais partie à l'époque. Il y a énormément de villes qui ont fait le choix aujourd'hui de ne pas avoir une ATSEM par classe parce que ça n'est pas obligatoire. Mais il faut quand même relativiser les choses, même si ça n'est pas obligatoire, il y a le confort pour les enfants, parce qu'on a quand même des classes. Je rappelle que dans les classes de maternelle, l'effectif, en dehors des classes de grande section, c'est 32 enfants. La moyenne, c'est 32 enfants. Donc, ça fait quand même des classes qui sont extrêmement surchargées. Et quand il n'y a qu'un enseignant pour des classes aussi surchargées, bah, évidemment, la qualité de vie et de service public n'est pas la même. Donc voilà, ce sont des choses qui sont aussi saluées, je dirais, par nos partenaires. Donc je tiens à le dire. Bien, eh bien écoutez, s'il n'y a pas Monsieur Schmitt.
Ce sera à peu près aussi dans la même veine. Je vois tout le monde voit. qu'il y a deux projets qui sont arrêtés, celui de la place de l'Europe et du... Alors, à moins qu'on ait déjà répondu, et dans ce cas-là, je n'ai pas écouté, non ? Vous n'avez pas répondu, d'accord. Parce que des fois, ça m'arrive de ne pas bien entendre. C'est une question que vous posez après ? Excusez-moi.
Donc, sur le mais vous n'avez pas écouté, M. Schmitt, ou...
Pardon ?
Vous n'avez pas écouté ce qui s'est passé avant, ou... Ça n'a pas été évoqué, hein ? Non.
Vous avez déjà répondu à cette question-là ?
Non, justement pas.
C'est peut-être l'âge. Alors, sur le pôle socioculturel, tout le monde peut constater effectivement qu'il n'est pas budgété. Donc, en attendant, qu'est-ce qui est prévu sur ces deux pôles ? Alors, l'aménagement de la place de l'Europe, un indice moindre. Et vu l'environnement l'aménagement qui est actuellement autour du Nickel-Odéon, qu'est-ce qui est prévu pour...
Alors, nickel, ça n'est plus Nickel-Odéon, c'est nickel. Ça revient à ce que j'ai expliqué sur la maison de quartier du Bel Air. Ces projets-là ne sont pas abandonnés, ils sont déplacés, glissés dans le temps. Donc, ils n'apparaissent pas forcément parce qu'ils sont un peu plus décalés, mais ils ne sont absolument pas abandonnés, surtout que des études ont déjà été commencées. Ça n'est surtout pas stoppé. Ça fait partie de l'explication que je vous donnais tout à l'heure sur les choix qui ont été faits autres, hein, la voirie, l'éclairage public, les qualités de bâtiments que nous souhaitons faire et de réhabilitation que nous souhaitons faire et qui ne permettent pas de se dire on va le faire, mais on va le faire avec une qualité moindre. Ça n'est pas raisonnable. Et puis, alors, en ce qui concerne les environs du nickel actuellement, en effet, avec le plan voirie, il y a la route qui a été refaite devant le nickel, mais il y a actuellement des travaux pour la réhabilitation du parking qui était devant le nickel, avec une désimperméabilisation de ce parking et une végétalisation pour pouvoir profiter du fonds friche de la région qui risquait d'être caduque, et donc il fallait que l'on soit en mesure d'engager les travaux, sinon nous perdions cette subvention. Alors ça fait partie d'une question de la fin du conseil municipal, mais bon voilà, en tous les cas ça fait partie des réponses que nous apportons parce que c'était important. Nous avions eu ce fonds friche, nous avait été attribué, mais il fallait que nous engagions des travaux. Évidemment, ça signifie que les entreprises qui viendront ensuite pour déconstruire le nickel auront des obligations de respecter ce qui aura été fait, bien sûr, lorsque les travaux seront livrés. Ça répondait à la question ?
Pardonnez-moi, une toute petite question parce que je l'avais noté, mais la communication imprimerie, on a un volume financier qui est beaucoup plus important, c'est par le fait que l'on change complètement les systèmes, parce qu'on est passé de 60 000 euros à 160 000 euros. Donc comment se fait-il qu'il y ait une évolution aussi importante ?
Parce qu'on a réintégré, c'est-à-dire qu'on refait des choses en régie totalement.
C'est ça, c'est suite au fait que l'on fait des modifications au niveau de la communication, des outils, et ainsi de suite.
Exactement, c'est dû à cela. Bien, et bien, s'il n'y a plus de questions, nous allons prendre acte. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il faut prendre acte et qu'on nous demande de voter en prenant acte. Bon, alors, nous allons... c'est une obligation, je trouve ça un peu idiot, je ne comprends pas bien, prendre acte et dire pour, contre ou non. Donc est-ce que tout le monde peut lever la main pour dire qu'il y a eu ce débat? Donc voilà, à l'unanimité.